De retour à l'émission Au gré du temps, notre invité aujourd'hui, avec grand plaisir, François Millette, médecin pathologiste, mais aussi, je dirais, grand penseur. Personne inquiète, peut-être?
Certainement. Inquiète, oui.
Parce qu'il est rare que les gens portent un regard aussi, aussi sensible sur la réalité qui les entoure. Je dois avouer, pour les gens qui sont à l'écoute, que nous nous connaissons depuis fort longtemps. Vous faites partie de ces amis précieux, parce que ce regard que vous portez sur le monde est très inspirant. Et ceux qui vous connaissent savent que vous êtes probablement un être qui peut paraître, à prime abord, un peu sombre, parce que on ne va pas nécessairement creuser ce que vous êtes profondément. Et vous êtes un être profondément lumineux. Alors, vous n'êtes pas sombre, vous êtes lumineux. Parce que vous êtes inspirant. Alors, ça m'appelle... On a parlé de pouvoir préalablement, avant la pause. On y reviendra parce que c'est une question fondamentale que le pouvoir, l'exercice du pouvoir. Oui. Mais dans les rapports humains, il y a peut-être une donnée très importante qui est celle de l'amitié. L'amitié, c'est fondamental pour vivre.
Oui, l'amitié, c'est fondamental. L'amitié, la relation, c'est que, comme je disais un peu plus tôt, l'enfer, c'est le refus d'aimer. C'est pas l'incapacité d'aimer, c'est le refus d'aimer. Il faut aller vers les autres, il faut aller vers les autres, et c'est peut-être la seule façon d'aller vers soi-même.
Dostoïevski, que vous aimez bien, disait « Aimer un être, c'est le voir comme Dieu a voulu qu'il soit ».
Oui, certainement, oui. Et puis, aimer quelqu'un, c'est accepter de cheminer, accepter d'évoluer avec lui. Des fois, ça peut être décevant. On est tous déçus par un ami ou même par un amour. Bon, il y a des peines d'amour. Je pense qu'il y a des peines d'amitié aussi. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être décevantes. Je pense qu'on peut aussi être déçu de soi-même en réalisant qu'on peut avoir déçu un ami. On peut ne pas avoir été à la hauteur de ce qu'on espérait être en tant qu'ami ou en tant qu'amoureux.
Mais il faut être ami avec soi-même aussi d'abord et avant tout.
Mais c'est une quête continuelle parce qu'on est en continuel changement. Et en plus, les relations qu'on a avec nos amis on nous changent, nous font évoluer, nous font cheminer. Fait qu'on est autrement après avoir connu quelqu'un. Comme je vous disais tantôt, la culture qui est la somme de nos expériences et de nos rencontres, qui fait que c'est un devenir continuel. On n'a jamais fini de se construire. C'est ça qui est assez fascinant aussi, parce que j'ai une sainte horreur de tous ceux qui voudraient définir ce que c'est qu'être un homme, définir ce que c'est que d'être... Je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais ce que c'est que d'être un Québécois ou un humain. Je veux dire, c'est quelque chose qui est en continuel devenir.
Mais c'est souvent ça le péché de la science, de vouloir tout expliquer.
Pas seulement la science. C'est pas seulement la science qui veut tout expliquer. Je veux dire, la philosophie a beaucoup de prétentions souvent aussi. La religion peut être extrêmement arrogante et prétentieuse et prétendre détenir la vérité, peut-être encore bien plus que la science. Je veux dire, la vraie science. Il faut pas confondre avec la demi-science qui est une instrumentalisation de la science. La science, c'est pas une pensée qui sait. La science, la vraie science, c'est une pensée qui doute. C'est une pensée qui se questionne tout le temps. Qui sait très bien que plus on va avancer, plus la mer va être profonde, mais qu'il va toujours y avoir un fond. Hein? Et que quand on va avoir atteint les pensées les plus profondes, on va être encore au fond, puis qu'on va pouvoir toujours se poser la question pourquoi ce fond-là, puis on peut-tu aller plus loin que le fond? Toujours, c'est jamais complété, c'est jamais fini. Puis d'un autre côté, je veux dire, il faut qu'on chemine. J'aime beaucoup l'idée que la vérité... C'est encore, on cite beaucoup de monde, j'ai toujours un peu peur que ça fasse prétentieux, mais il y a certaines phrases qui ont le même effet que quand vous rentrez dans une pièce complètement obscure, mettons, et que vous allumez la lumière, par exemple. Vous n'allez pas commencer par voir le plancher, ensuite les chaises, ensuite les tables, ensuite les tableaux, ensuite les fenêtres. Non, quand la lumière va s'allumer, vous allez tout voir instantanément, vous allez tout voir en même temps. Hein? Il y a certaines phrases qui ont cet effet-là.
Jojo, voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain. Jojo, Moi je t'entends rugir quelques chansons marines, où des Bretons devinent que Cinca doit dormir tout au fond du brouillard. Six pieds sous terre, Jojo, tu chantes encore. Six pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, ce soir comme chaque soir, nous refaisons nos guerres. Tu reprends Saint-Nazaire, je refais l'Olympia au fond du cimetière. Jojo, nous parlons en silence d'une jeunesse vieille. Nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. Six pieds sous terre, Jojo, tu espères encore. Six pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, tu me donnes en riant des nouvelles d'en bas. Je te dis mort aux cons, bien plus cons que toi, mais qui sont mieux portants. Jojo, tu sais le nom des fleurs, tu vois que mes mains tremblent. Et je te sais qui pleure pour noyer de pudeur mes pauvres lieux communs. Six pieds sous terre, Jojo, tu frères encore. Six pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, je te quitte au matin pour de vagues besognes, parmi quelques ivrognes des amputés du cœur qui ont trop ouvert les mains. Jojo, je ne rentre plus nulle part, je m'habille de nos rêves. Orphelin jusqu'aux lèvres, mais heureux de savoir que je te viens déjà. Six pieds sous terre, Jojo, tu n'es pas mort. Six pieds sous terre, Jojo, je t'aime encore.
Certaines phrases qui sont comme une lumière qui s'ouvre. Quand j'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain, j'ai plaisir à te dire que même mort, tu n'es pas mort parce que je t'aime encore. Et parce que l'amitié, l'amour, la continuité de la vie va toujours rester en évolution. Encore une fois, c'est tout simplement cette idée-là qu'on n'a jamais fini de progresser.
Mais c'est un projet ambitieux parce que quand on part sur cette base de l'amitié, idéalement, on voudrait embrasser l'humanité. Et je reviens à votre auteur, encore une fois avec prudence lorsqu'il y a des citations, mais Dostoïevski disait « Plus j'aime l'humanité en général, moins j'aime les gens en particulier. » Et on a souvent ce désir de vouloir embrasser le monde.
Mais ça, ça survient dans les Frères Karamazov où une madame qui vient voir un moine et qui lui dit « Ah, aidez-moi, parce que moi, j'aime l'homme, je voudrais sauver l'homme, j'aime tellement l'humanité, mais je suis pas capable de sentir la merde, puis je suis pas capable de m'approcher de quelqu'un qui sent pas bon. » Et le moine la fout dehors à coups de pied. Hein? Alors, cette phrase-là, il faut se méfier d'une phrase aussi, qu'on peut l'interpréter toujours et la réinterpréter. Je pense que celui qui ne peut pas... Celui qui aime l'humanité sans aimer l'homme, peut-être qu'il n'aime que lui-même. Hein? Puis ça, c'est la chose qui est dangereuse, parce que c'est peut-être ça qui nous conduit directement dans l'enfer dont je parlais plus tôt. L'enfer de l'isolement, de la solitude. Être capable de s'émerveiller encore, malgré tout. Aimer la vie, malgré tout. Puis être capable de dire, non, il faut que je sorte de moi-même. Il faut que je sorte de moi-même, parce que sinon, j'étouffe.
Mais c'est là la quête. La quête, c'est aussi le désir. Ce que vous exprimez, François, en ce moment, le pouvoir de s'émerveiller, c'est aussi cette capacité de pouvoir désirer, au sens noble du terme, c'est-à-dire un désir qui est un désir généreux, et non pas un désir d'appropriation pour son propre soi.
Évidemment. Bien, ça, c'est comme ce qu'on parlait, on évoquait le pouvoir tantôt. C'est évident que on peut toujours trouver un côté négatif ou un côté positif. On peut toujours trouver un côté négatif au pouvoir. C'est évident. Monterland, il n'y a pas le pouvoir, il y a l'abus de pouvoir, c'est tout. Non, non. C'est évident que le pouvoir peut être abusif. C'est évident que... Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il serait absurde de faire abstraction du pouvoir, parce que toutes les relations sont dans ce terme-là. Toutes les relations entre les humains sont en termes de pouvoir exercé, de pouvoir consenti, de pouvoir qui peuvent être positifs, constructifs, pas nécessairement destructeurs. Mm-hmm. On parlait de l'éducation. C'est un pouvoir terrible que celui de l'éducateur sur son élève ou du parent sur son enfant. Hein? Mais essayer d'en faire abstraction, ce serait une absurdité. C'est évident que c'est un pouvoir qui doit être assumé, qui doit être vécu.
Où il y a quand même un canal de communication qui existe entre l'un et l'autre, entre
évidemment,
l'éducateur
toujours.
Et celui qui reçoit aussi.
Mais même entre le maître et l'esclave, il y a de la communication.
Oui.
Puis je veux dire, c'est une question de s'élever au-delà de soi-même, qu'on soit esclave ou maître.
Parlant de communication, vous nous présentez une œuvre où la communication est vraiment très présente entre le pianiste et le violoncelliste. C'est le deuxième mouvement, l'Allegro. Scherzenzo de la sonate pour piano et violoncelle, opus 19 en sol mineur de Rachmaninoff. Il y a une communication véritable entre... Il y a un dialogue dans cette pièce.
Oui, il y a même peut-être une lutte. Alors, c'est évident que dans cette pièce-là, il y a un échange. Hein? L'échange, il peut être assez intense. Il peut être très harmonieux. Il peut être conflictuel, à la limite. Même être capable de passer au-delà du conflit dans une difficulté avec quelqu'un, moi, je trouve que une très grande qualité. Être capable de ne pas avoir de rancune, d'être capable d'affronter les choses, même quand ça dérange, même quand ça bouscule, parce que c'est assez bousculant. Mais on te bouscule. Dans un autre mouvement de cette sonate-là, tout est en intériorité, tout est en intimité, tout est en confidence, tout est en partage. On dit bien des choses de l'amitié, mais il y en a une qui est belle qui dit qu'en amitié, une peine partagée est deux fois moins grande, puis un bonheur partagé est deux fois plus grand. Hein?
C'est très sage, mais dans le quotidien...
Dans le quotidien, c'est toujours difficile.
C'est toujours difficile.
C'est souvent difficile. Peut-être pas toujours, c'est souvent difficile. Puis c'est souvent difficile parce qu'on est soi-même souvent responsable aussi des difficultés. Puis personne n'est parfait.
On n'a qu'à regarder autour de soi, que ce soit dans le milieu de travail, dans nos relations interpersonnelles, au plan familial ou autre. Il arrive des moments où il y a des tensions qu'on aimerait voir évidemment disparaître, mais où on ne trouve pas toujours l'énergie pour faire en sorte que ce partage, comme vous dites, devienne... peut-être plus grand au plan du bonheur retrouvé.
Des fois, c'est difficile. Puis, je veux dire, oui, c'est sûr, mais je pense que ça doit rester un objectif, ça doit rester un idéal. Puis, ça doit être animé un peu, beaucoup, par l'autocritique, de dire, bon, qu'est-ce que je peux faire? Bon, peut-être que j'ai pas toujours raison. Hein? peut-être qu'il y a des choses...
Mais ça prend une dose d'humilité.
Oui, ça prend une dose d'humilité, ça prend de l'expérience aussi, je pense.
Ça revient essentiellement au message souvent des grandes religions, c'est-à-dire pardonner, pardonner, pardonner. Oui. Se pardonner à soi-même aussi.
Oui, pardonner, qui n'est pas oublié. Hein? C'est pas la même chose.
Non.
On peut... ne pas oublier tout en étant capable de pardonner. Mais c'est évident que quelqu'un qui a perdu votre confiance a un gros chemin à parcourir pour la gagner. La confiance, c'est une chose qui se perd plus facilement qu'elle se gagne. Hein?
Avant qu'on se quitte, François, on l'a dit en début d'émission, bon, vous êtes médecin, mais vous vous adonnez aussi beaucoup, on le sent par les réflexions qui sont les vôtres, vous vous adonnez aussi au monde des arts, par la musique, par la peinture, par les lectures que vous faites. Quel est le lien conducteur? C'est essentiel pour vous?
Oui, je vais vous dire le lien. Tout ça, ça s'est mis ensemble à un moment donné où j'ai justement... eu l'impression très intense que j'avais peiné quelqu'un que j'aimais. OK? Et puis, dans une anecdote très simple, un événement qui s'était passé, puis que j'avais appris avec une certaine surprise que j'avais peiné cette personne-là. Et quand j'ai commencé à me questionner, j'ai été surpris de me dire pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. J'étais même pas sûr qu'il y avait raison, mon ami, d'être peiné. J'étais même pas sûr que j'avais fait une erreur. Mais plus je me questionnais, moins je comprenais. Et quand j'ai commencé à lire en philosophie, pour me dire que finalement, quand on regarde à l'intérieur de soi, que ce soit par les yeux de l'artiste ou du scientifique ou du philosophe, on a la même immensité que quand on regarde le ciel avec les étoiles. Puis c'est très facile de se perdre à l'intérieur de soi, comme c'est facile de se perdre dans les étoiles. Hein? Il faut être capable de dire, bon, ben, où je dois me situer entre les deux. Hein? Victor Hugo disait... Dieu, sachant ce qui convient à l'homme, a mis les étoiles bien loin et la femme tout près.
Alors, vous serez notre étoile du jour pour qu'on sorte des ténèbres. François, on va poursuivre cet entretien la semaine prochaine, si vous voulez bien.
Avec le plus grand plaisir.
Et on va se quitter avec une pièce que vous ne connaissez pas, que vous allez découvrir. Elle est de Vassili Kalinnikov. Il a vécu de 1866 à 1901. Il a été soutenu par Tchaïkovski, bien que soutenu par lui, qu'il a recommandé auprès de plusieurs orchestres. Sa mauvaise santé le poussera à s'installer à Yalta pour le reste de sa vie, où il composera la plus grande partie de ses œuvres. Il meurt de la tuberculose en 1901, l'avant-veille de son 35e anniversaire. Rachmaninov et Tchaïkovski sont parvenus à faire publier certaines de ses œuvres, notamment sa deuxième symphonie, dont le deuxième mouvement marqué Cantabile, qui nous servira de thème de fermeture. Parmi ses compositions, on retiendra des pièces orchestrales, mais surtout ses deux symphonies. Pourquoi cet extrait pour terminer? Parce que vos propos sont lumineux et c'est une pièce vraiment très lumineuse. Alors, le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Vital Côté, Armand Dubois à la réalisation et l'animation. Merci François d'avoir été là et à la semaine prochaine. Vous y serez.
Bienvenue.